peut dire qu'on a été rattrapé par la réalité. Là, les bombardements israéliens, alors mardi c'était au sud Liban, puis là maintenant, cette nuit c'est devenu Beyrouth, qui sont en train de pilonner massivement. Bon, tout ça montre que les choses évoluent très vite. Et que ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien, eh bien en fait ça dépasse très largement les frontières de la Palestine. Et après l'anéantissement de Gaza, bah, ce qu'on voit maintenant c'est les Libanais qui meurent, qui prennent la voiture, qui s'échappent de leur maison en emportant ce qu'ils peuvent, et puis parfois ils n'ont même pas le temps de retirer les corps de leurs proches sous les décombres. C'est ce qui se passe en ce moment. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bah, c'est clair que c'est ni le Hezbollah, ni l'Iran qui souhaitaient aggraver le conflit. Même à la fin juillet, quand Israël a assassiné en pleine capitale iranienne à Téhéran le chef politique du Hamas, eh ben l'Iran n'a pas bronché, n'a pas riposté. C'est bien Netanyahou et les hauts gradés de l'armée israélienne qui poussent à l'escalade et qui entraînent toute la région dans la guerre. Et ils peuvent le faire parce qu'ils ont le soutien toujours renouvelé des États-Unis qui, malgré leurs appels hypocrites à la désescalade, eh bien, continuent de livrer les armes et mobilisent leurs porte-avions et leurs bases militaires en soutien à Israël. Pas plus tard qu'avant-hier, ils ont encore annoncé 8,7 milliards de dollars supplémentaires d'aide militaire à Israël. Au même moment où ils amusent la galerie en parlant de cessez-le-feu, etc. Voilà. Et ici aussi, le gouvernement français, il a choisi son camp, clairement. Toute critique de la politique d'Israël, encore aujourd'hui, elle continue à être assimilée à de l'antisémitisme. Et même quand les services secrets israéliens font exploser des milliers de pipeurs en pleine rue, dans les supermarchés, en semant la terreur partout au Liban, eh ben aucun commentateur ne parle de terrorisme d'Israël. Alors il y a de quoi être profondément révolté face au massacre de l'armée, des colons israéliens, face au cynisme des grandes puissances. Et ceux qui ont dénoncé tout ça et qui ont manifesté contre le terrorisme de l'État israélien, eh bien, ils ont eu mille fois raison, d'autant plus qu'ils l'ont fait malgré les interdictions, malgré les intimidations. Et nous en étions, dès le début du massacre à Gaza, de ceux qui ont manifesté, qui ont dénoncé. Mais on a beau avoir manifesté, et bien la guerre elle s'étend, et ce qu'on voit aujourd'hui, ça nous montre que l'indignation, les dénonciations, et bien ça ne suffit pas. Si on ne veut pas être impuissant, la première chose c'est de chercher à comprendre ce qui se joue, comment on en est arrivé là, ce que représente la politique des uns et des autres. Et la seconde, c'est de chercher à défendre une politique du point de vue des exploités, une politique de classe. La guerre inégale qui se mène entre Israël et les Palestiniens ne se réduit pas à une guerre entre deux peuples qui se disputent le même territoire. Bien sûr que l'objectif de la guerre pour Israël, c'est de mater les Palestiniens et les organisations qui les représentent. C'est de chasser le maximum de Palestiniens de leur terre en Cisjordanie. Mais l'extension de la guerre au Liban, encore une fois, bah, elle montre que le conflit dépasse Gaza et la Cisjordanie. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, c'est la troisième fois, en 40 ans à peine, que Israël fait la guerre au Liban. En 1982 déjà à l'époque, sous le même prétexte de protéger sa frontière, eh ben, les tanks israéliens ils étaient allés jusqu'à Beyrouth. Et les milices d'extrême droite chrétienne libanaise avaient à ce moment-là massacré les femmes et les enfants des camps de réfugiés palestiniens à Sabra et Shatila, sous l'œil complice des soldats israéliens, mais aussi des soldats français et américains qui étaient à Beyrouth à ce moment-là. Parce que dans ce jeu-là, il n'y a pas qu'Israël, il y a les puissances impérialistes. Et d'ailleurs, les puissances impérialistes, elles ont une politique dans tout le Moyen-Orient, dans toute la région, bien au-delà de la question juive, bien au-delà de la question nationale palestinienne. C'est elles, ces puissances-là, qui ont créé artificiellement le Liban et son système politique qui divise le pays entre communautés religieuses et le met régulièrement au bord de la guerre civile. Ils ont fait ça des années avant même la naissance d'Israël. Et pas loin dans la région, on peut aussi prendre l'exemple du Yémen, qui est ravagé par une guerre et une famine qui ont fait des centaines de milliers de morts depuis plus de 10 ans. Et c'est pas Israël qui bombarde au Yémen, c'est l'Arabie Saoudite, avec des obus français d'ailleurs. En fait, depuis plus d'un siècle, les impérialistes manœuvrent au Moyen-Orient. C'est eux qui y ont tracé les frontières. Ils ont séparé les peuples, ils les ont montés les uns contre les autres pour dominer. Le Liban, il a été séparé de la Syrie et placé sous le contrôle de la France, tandis que la Grande-Bretagne, elle se taillait la Palestine dans un morceau de la Jordanie. Et à plusieurs reprises ensuite, dans les années 1930 et 1940, il y a eu des grandes révoltes populaires parmi les masses arabes. Elles ont toutes été matées, à la fois par les troupes impérialistes et par les notables locaux, qui n'en voulaient pas non plus. Après les indépendances des colonies, les impérialistes, et en particulier l'impérialisme américain, ils ont continué à dominer en jouant sur les rivalités entre les différentes cliques dirigeantes des différents États pour garder le contrôle. Pendant toute une période, il y a eu des régimes nationalistes qui ont cherché à se faire une place au soleil. Ça a été le cas de l'Égypte de Nasser, de la Syrie ou de l'Irak dans les années 1950 et 1960. Ces régimes étaient des dictatures pour leur peuple. C'était des nationalistes bourgeois, mais ils affichaient une politique anti-impérialiste et ils ont pu trouver un certain écho auprès des masses et un certain appui auprès de l'Union soviétique. En 1979, les ayatollahs d'Iran se sont appuyés sur une révolte profonde pour renverser ce qui était alors une dictature très pro-américaine, celle du Shah, et créer ce qui est encore aujourd'hui la République islamique. Et à ce moment-là, la perte de cet allié-là pour les États-Unis, ça a fait encore plus d'Israël le chien de garde numéro un de l'impérialisme américain dans la région. Alors c'est pas le propos, c'est pas ici de refaire toute l'histoire du Moyen-Orient, mais pour résumer, on peut dire que depuis plus de 70 ans, il n'y a pas eu une seule minute où les dirigeants impérialistes n'ont pas manœuvré, fomenté des coups d'État, des interventions militaires, détruit des pays entiers comme ils l'ont fait en Irak. Et c'est eux finalement qui portent la responsabilité numéro un, écrasante, dans le chaos qui règne au Moyen-Orient. C'est eux qui sont responsables de la guerre permanente, de cette guerre de 100 ans qui se joue là-bas. Mais dans ce jeu des impérialistes, c'est vrai qu'Israël occupe une place particulière. Ce pays, il a été présenté, l'espoir de cet État, ça a été présenté aux Juifs survivants du génocide nazi comme l'espoir d'avoir une protection, un havre de paix. Mais cet État d'Israël, il s'est voulu dès le début comme un État uniquement pour les Juifs, dans une Palestine qui était peuplée de millions d'Arabes non-Juifs. Alors c'était pas la seule voie possible, c'était pas la voie forcément que voulaient tous les Juifs rescapés qui se retrouvaient sur cette terre-là. Mais c'est cette voie-là qu'ont voulu les fondateurs d'Israël. Et cette politique, toute la politique en fait des dirigeants sionistes, et bien depuis le début, ça a fait d'Israël un camp retranché, un État qui est en guerre permanente avec ses voisins, et ça a placé la population israélienne dans une situation où elle estime qu'elle n'a pas d'autre choix que de serrer les rangs derrière son armée, de soutenir son État et de chercher des alliances avec les impérialistes pour se défendre. Et donc au fil du temps, Israël s'est devenu un avant-poste militarisé, un pays qui ne peut exister que comme bras armé de l'impérialisme. Et ça a conduit aussi à porter au pouvoir en Israël des dirigeants de plus en plus extrémistes, de plus en plus va-t-en-guerre, et qui désormais ont leur propre calendrier, leurs propres objectifs et une certaine marge de manœuvre pour imposer à leurs parrains occidentaux leurs objectifs. L'impérialisme, il a bien d'autres alliés dans la région. Il y a la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite. En fait, tous les États, même ceux qui affichent une certaine indépendance, ils sont dans le cadre de l'impérialisme et ils sont les gardiens de l'ordre mondial. Mais ces autres régimes, ils offrent un soutien moins fiable et moins stable qu'Israël. Ils sont régulièrement contestés, comme ça a été le cas pendant les printemps arabes en 2011. Et puis leurs dirigeants, ils doivent en permanence composer avec une population arabe qui se sent arabe ou iranienne ou turque, mais qui se sent solidaire des Palestiniens et qui est hostile aux manœuvres américaines. Et c'est ça qui, par exemple, a poussé les dirigeants turcs ou saoudiens récemment à prendre leur distance vis-à-vis d'Israël, alors même qu'ils ont énormément de liens économiques et militaires avec. Mais ça ne fait pas pour autant de ces dirigeants des amis des Palestiniens, ni des classes populaires et des travailleurs de leur pays. Et les dirigeants des grandes puissances, eux, on constate que s'ils préfèrent la paix pour leurs affaires, ils ont aussi tout intérêt à entretenir le feu, à maintenir des conflits ouverts pour avoir sans cesse des chiens de garde à leur service et garder le contrôle. Et c'est pour ça qu'ils continuent à livrer des armes et à soutenir des bourreaux et des gardiens de prison comme l'État d'Israël. Alors il finira peut-être par y avoir un cessez-le-feu et un armistice à l'avenir, même si jusqu'ici les grandes puissances n'ont mis aucune pression sur Netanyahou pour négocier. Mais une telle paix, un tel armistice, ça serait quoi ? Un répit, mais aucune justice, un petit répit sans aucune justice. Et quelle paix à Gaza ? La paix comme celle d'Oslo il y a 30 ans, la paix des cimetières, la paix dans un immense camp de réfugiés où tout le monde doit la fermer ? Mais cette paix-là, elle pourrait pas durer longtemps, ça serait juste le temps qu'une nouvelle génération se relève et reprenne le combat. Et puis chaque intervention, qu'elle soit militaire ou diplomatique, des grandes puissances impérialistes, elle se fait toujours au nom de la paix. Mais ces interventions-là, elles cachent toujours la loi du plus fort, même quand ils parlent de cessez-le-feu. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont fait en Syrie, en Irak, en Afghanistan, quelle paix ils ont apporté dans ces pays-là. En fait, tant que l'impérialisme dominera, il n'y aura pas de paix possible pour les peuples. Les dirigeants en Israël, eux, ils font croire à la population juive qu'elle pourrait avoir la paix à condition d'écraser militairement tous ses voisins et de se barricader ensuite au milieu du champ de ruines. C'est un mensonge criminel. Et c'est exactement l'inverse qui se produit. La politique guerrière des dirigeants israéliens, elle va renforcer le poids de l'armée et de l'extrême droite dans ce pays. Ça fait partie du calcul de Netanyahou, qui compte sur eux pour se maintenir au gouvernement. Cet État d'Israël, qui en est arrivé là aujourd'hui à une extrême droite, à des fascistes complètement tarés au pouvoir, ça a été fondé à l'origine, il y a 80 ans, par des juifs qui fuyaient l'oppression. Et ils en sont arrivés là. Le sionisme, en quelque sorte, bah c'est un nationalisme qui a réussi. Mais quelle vie, quel avenir est-ce que ça donne pour la population juive en Israël? Eh bien, c'est la guerre permanente, c'est d'être des gardiens de prison et des tortionnaires, et c'est une impasse. Mais la société israélienne, elle n'est pas homogène et elle n'est pas figée. Elle est déjà profondément inégalitaire, et pas seulement vis-à-vis des Arabes, qui forment quand même 20% de la population d'Israël. Mais même socialement, il y a un gouffre entre d'un côté les bourgeois petits, gros, les patrons des entreprises de haute technologie avec leurs belles villas, et puis de l'autre côté les ouvriers qui n'arrivent pas à se loger parce que c'est hors de prix dans les villes, qui n'arrivent pas à se soigner. Et puis ces ouvriers, ils sont juifs, arabes, immigrés d'ailleurs. Et puis la guerre, la militarisation, elle pèse sur toute la société. Déjà parce que c'est la population qui paye les bombes. Même s'ils ne les prennent pas sur la tronche, ils les payent, et puis ça manque dans les hôpitaux, dans les écoles, partout. Et puis c'est aussi la violence physique, mais aussi morale. C'est la dégradation de toute la société, la corruption. Ça va des violences conjugales jusqu'à la drogue que prennent tous les jeunes pour oublier ce qu'on leur a fait faire pendant leur service militaire dans les territoires occupés. Et ça, ça pourrit la société. Et tout ça, et ben cette réalité-là, elle se fait ressentir. Et elle ressurgit en ce moment. Alors que Netanyahou, il avait réussi à faire l'union sacrée derrière lui après le 7 octobre, eh ben, il y a eu des manifestations importantes à Tel Aviv récemment, 500 000 de manifestants au début du mois. Alors même si une grande partie de la population continue de soutenir la guerre ou l'extrême droite, ben, il y a aussi cette opposition-là qui se manifeste. Alors, les manifestants, on ne va pas se mentir, ils étaient contre le gouvernement, mais ce qu'ils demandaient, c'était un accord pour les otages. Ils ne mettaient pas du tout en avant la vie ou le sort des Palestiniens. Et ça, c'est une énorme limite, et même de leur point de vue. Même de leur point de vue à eux, qui sont opposés à l'extrême droite quelque part. Parce que sans dénoncer le sionisme, sans rompre avec le sionisme, sans dénoncer l'oppression, ni reprendre à leur compte le droit des Palestiniens à vivre libre, bah, ces manifestants, au final, ils restent sur le terrain du nationalisme, et l'extrême droite, elle sera toujours plus forte sur ce terrain-là. Et au final, ils vont faire que la renforcer. Bon, la situation, elle n'est pas stable en Israël, ça provoque des réactions, ça continuera à en provoquer. Et nous, on pense que ça ouvre une perspective, il faudrait une politique qui rompe avec le sionisme, et ça, ça veut dire un courant qui oppose au nationalisme, et bien une politique qui est basée sur les intérêts des travailleurs. Et là, il y aurait des points d'appui, ces réactions, elles donneraient des points d'appui pour des militants qui voudraient faire ça. Et ces militants-là, bah, ils auraient peut-être la possibilité, en tout cas, ça serait nécessaire de baser sa politique, pas sur les confessions, la nationalité, mais sur les intérêts des travailleurs, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut s'adresser eh ben, aux travailleurs juifs, aux travailleurs arabes, aux travailleurs immigrés, voire aux exploités ailleurs dans la région, sur la base de ce qu'ils partagent, de leurs intérêts communs. Et je disais, bon, et s'adresser aux peuples opprimés de la région, parce que de l'autre côté, il faut voir que pour les peuples opprimés de la région, à commencer par les Palestiniens, bah, la politique que proposent les dirigeants des organisations nationalistes, c'est tout autant une impasse. Alors bien sûr, je l'ai dit, on n'est pas neutre, nous ne renvoyons pas les deux camps dos à dos. Nous dénonçons et nous combattons la politique d'Israël et des impérialistes. Mais cela ne fait pas pour autant des dirigeants de l'axe Hamas, Hezbollah, Iran, des représentants des exploités. Alors oui, bien sûr, c'est vrai, ils ont des discours radicaux, anti-américains, ils prétendent incarner la résistance, ils prétendent parler au nom des déshérités, comme ils disent. Et c'est un fait, c'est une réalité, que chaque bombe israélienne qui tombe en Palestine ou au Liban, eh ben, ça pousse des dizaines de jeunes enragés qui cherchent, voilà, dans les rangs du Hamas, ça fournit des nouvelles recrues, chaque bombe qui tombe. Et le Hamas et le Hezbollah, parce que justement ils ripostent à Israël et qu'ils lui mènent la guerre, eh ben, ils touchent une partie de ceux qui sont révoltés par les massacres, en particulier parmi les opprimés du monde arabe, et puis une partie des travailleurs ici, notamment dans la fraction immigrée. Mais ces dirigeants-là, ils ne veulent rien d'autre que leur place dans l'ordre mondial. Et nous, nous refusons de nous ranger derrière le drapeau palestinien ou les organisations nationalistes comme l'OLP, le Hamas et le Hezbollah, qui sont les ennemis de leur propre peuple. L'unité nationale que ces dirigeants prônent au nom du combat contre l'occupant, ça leur sert toujours en fait à faire taire la voix des pauvres. Et puis c'est quoi le bilan du Hamas pour les Palestiniens après le 7 octobre ? Alors oui, du point de vue de l'appareil, du point de vue de sa place d'interlocuteur dans les négociations avec l'Israël et les grandes puissances, ça on peut dire qu'ils ont avancé. Mais qu'est-ce que ça a donné pour la population palestinienne ? Certains Palestiniens ont pu légitimement se sentir vengés le 7 octobre, quand ils ont vu les combattants du Hamas franchir le mur de sécurité à côté duquel plein de Palestiniens ils ont grandi puis qu'ils n'ont jamais pu franchir eux. Et ces combattants du Hamas, ils ont pu apparaître aux yeux de bien des opprimés dans le monde arabe comme des champions de la lutte contre Israël et contre l'impérialisme. Mais quel est le résultat aujourd'hui ? Eh bien, c'est plus de 41 000 morts, c'est Gaza rasé et transformé en cimetière. Et le Hamas, il savait très bien comment Israël réagirait. Un de ses dirigeants s'en est même vanté dans la presse en disant « Nous sommes fiers de sacrifier des martyrs ». Mais quand est-ce que les Gazaouis ont eu leur mot à dire là-dessus ? Ces dirigeants du Hamas, ils se moquent bien des besoins et des sentiments des opprimés. En fait, ils s'en méfient profondément. Et en massacrant des civils en bloc, comme ils l'ont fait le 7 octobre, leur but, c'était surtout de forcer les Palestiniens à serrer les rangs derrière eux. Le Hamas a profité du discrédit de l'OLP de Yasser Arafat. Il passe pour plus radical et présente les accords d'Oslo et la création de l'autorité palestinienne comme une trahison. Mais lui aussi a gouverné à Gaza, et lui aussi s'est comporté comme un petit appareil dictatorial, a racketté et fliqué la population palestinienne avant le 7 octobre. Et aujourd'hui, il y a des tractations qui ont lieu en permanence pour savoir qui du Hamas ou de l'OLP va gérer ce qui restera de Gaza après la guerre. Et ces tractations-là, d'ailleurs, souvent, elles ont lieu au Qatar, où il y a la principale base américaine de la région, ce qui en dit long aussi sur les rapports entre ces organisations, leurs parrains et les impérialistes. Bon, tous les dirigeants nationalistes, en fait, ils ont le même objectif. C'est s'imposer comme un interlocuteur pour aller négocier un petit appareil, des budgets, un État à gérer et quelques avantages, mais tout ça dans le cadre de l'impérialisme. Et au Liban, il y a le Hezbollah. Le Hezbollah, lui, il est au gouvernement aussi. Et il se comporte comme n'importe quel des partis bourgeois du Liban, tout aussi corrompus. Et sa propagande, elle présente la milice du Hezbollah comme une armée du peuple. Mais il faut se rappeler que lors des révoltes de 2011, il y a eu des centaines, peut-être des milliers de Syriens qui ont été massacrés par le Hezbollah parce qu'à l'époque, ils soutenaient son grand ami, le dictateur Bachar el-Assad. Donc ça dit ce qu'on peut en attendre. Et le Hamas, le Hezbollah et les Houthis du Yémen aussi, qui font partie de cet axe de la résistance, ils sont armés et financés par l'Iran. Mais qu'est-ce que les exploités peuvent attendre de cette dictature moyenâgeuse qu'est l'Iran ? Les ayatollahs en Iran, ils accumulent des fortunes, des milliards, sur le dos des travailleurs de ce pays. Ils emprisonnent, ils torturent tous ceux qui leur tiennent tête, les femmes, les travailleurs. Et ensuite, ils vont poser aux champions de la résistance contre USA, contre Israël, pour faire serrer les rangs derrière eux. Tous ces dirigeants nationalistes, que ce soit ceux du Hamas, que ce soit ceux des autres pays qui se veulent les champions de la cause palestinienne, ce ne sont pas les alliés des exploités palestiniens, pas plus que de leur propre peuple. Ce sont leurs adversaires. Ils les utilisent comme une masse de manœuvre et ils finissent toujours par se retourner contre eux. Mais les pauvres de Palestine, ils ont d'autres alliés, bien nombreux, partout dans le monde. Ce sont les autres exploités, les pauvres de tous les Moyen-Orient et de toutes les nations. Parce que l'extension de la guerre, elle nous montre une fois de plus que les destins des exploités de tout le Moyen-Orient sont liés. Il y a des millions de travailleurs qui y ont les mêmes intérêts, qui partagent souvent la même langue, qui vivent côte à côte, dans les quartiers populaires, dans les camps de réfugiés. Et c'est une force sociale immense, pour peu qu'ils engagent la lutte contre leurs véritables ennemis, c'est-à-dire les impérialistes, et donc également contre tous les régimes au pouvoir dans la région. Parce que c'est uniquement à l'échelle de la région que les opprimés peuvent espérer se libérer, pas en restant dans le cadre étroit des frontières nationales qui ont été tracées à l'époque de la colonisation. Regardez la vie des exploités dans des pays qui ont acquis leur indépendance nationale, qui se sont libérés de la tutelle coloniale. Quel est le sort aujourd'hui des mineurs noirs dans l'Afrique du Sud de Mandela ? Quel est le sort des pauvres en Algérie ou au Vietnam ? Aujourd'hui, encore plus qu'hier, le pourrissement du capitalisme rend impossible tout développement national. Ce que le capitalisme développe aujourd'hui, c'est la guerre et la crise partout. Mais ce qui nous rend optimistes malgré tout, c'est que les travailleurs n'ont jamais été aussi nombreux et autant reliés partout dans le monde, du Moyen-Orient jusqu'aux pays impérialistes. Et ce qui se passe à Gaza, au Liban, eh bien nous sommes nombreux, parmi les travailleurs et la jeunesse d'ici, à être révoltés par ça, par cette guerre au Proche-Orient. Et même ceux parmi la population des pays impérialistes qui n'a pas conscience de ça, eh bien ils sont concernés aussi par ce qui se joue là-bas. Parce que les armes, elles viennent des pays impérialistes. Les bombes qui tombent à Gaza, elles sont made in USA. Au Yémen, c'est des canons César qui sont fabriqués en partie pas loin de Saint-Étienne, qui tuent là-bas. Et puis ensuite, les Macron, les Biden et compagnie, quand ils sont à l'ONU, ils décident, ils parlent en notre nom des guerres ou de la paix là-bas. Donc on est tous concernés. Mais la fraction qui est révoltée, qui suit ce qui se passe là-bas et qui se sent solidaire des peuples sous les bombes, et ben même si elle est minoritaire, cette fraction-là, elle a un rôle important à jouer. Même si on ne pèse pas sur la guerre là-bas, on peut et on doit déjà dénoncer et combattre les mensonges de nos dirigeants. Et puis, avec la crise qui s'aggrave partout, y compris dans les pays riches, avec la montée des tensions nationales, les généraux qui préparent la guerre, eh bien on ne sait pas d'où une révolte pourrait partir, mais on est sûr qu'elle pourrait être contagieuse. Et c'est dans cette perspective que nous voulons militer, nous adresser à tous ceux qui ne veulent pas en rester à la dénonciation et à la solidarité, pour défendre une politique de classe, parce que c'est la seule politique qui est capable de mettre réellement fin à la guerre. Nous sommes communistes. Ça veut dire que nous sommes de tous les combats contre l'oppression, y compris contre l'oppression nationale. Bien des révoltes puissantes sont parties de là, et les Palestiniens, ils ont joué un rôle de premier plan bien des fois dans le passé. Mais nous ne voulons plus que les pauvres combattent et meurent au service de dirigeants qui sont leurs ennemis. Ça suffit. Il y en a eu trop. Et au contraire, nous ne fixons pas par avance de limites aux luttes des exploités. Nous comptons sur eux jusqu'au bout pour se battre côte à côte avec les pauvres de tous les pays contre tous leurs exploiteurs et se donner pour but, eh bien, de prendre le pouvoir et de renverser l'ordre impérialiste.